France Info.
Bonsoir, bienvenue dans Les Informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors je sais que nous n'avons pas à nous plaindre de notre sort, hein, nous sommes très bien traités, nous pouvons faire notre travail comme nous le souhaitons, mais je tiens tout de même à alerter les deux derniers candidats sur la sécurité dans les services publics, et notamment à France Info, puisqu'en effet nous sommes victimes, voilà, et oui, il faut le dire, de vols réguliers à l'intérieur même de notre entreprise. Hein. Notre micro-ondes s'est volatilisé un soir de février, puis il y a eu du jambon disparu du frigo, ensuite des carottes râpées, puis ce matin de nouveau des carottes râpées. Alors ça n'arrête pas, on en parle beaucoup hein, dans les mails intérieurs de l'entreprise. Nous vivons dans un climat de terreur. Qui vole les carottes de France Info? La concurrence? Peut-être. Un appât géant, peut-être. Mathieu Gallet, peut-être, hein, pour mettre ses équipes sur les nerfs. Nos plus fins limiers sont sur les nerfs. Ils enquêtent. Donc, si vous avez des renseignements, n'hésitez pas. En tout cas, eux, ils ne se nourrissent que d'actualité. Et les informés de France Info reçoivent ce soir Judith Vintraube du Figaro. Bonsoir.
Bonsoir.
Également le politologue Thomas Guénolé. Bonsoir.
Bonsoir.
Christophe Alix de Libération. Bonsoir.
Bonsoir, Jean-Mathieu.
Et Gaël Tchekalov. Bonsoir. Vous bonsoir. Êtes écrivain, auteur de Divine Comédie publiée chez Flammarion. Et vous serez très utile ce soir puisque vous connaissez par cœur tous les candidats qui ont participé à la présidentielle et même
par
les deux derniers.
Il faut pas exagérer, je les ai suivis.
Vous les avez suivis de près, en tout cas. Et ce soir, nous parlerons de la suite, bien sûr, du premier tour des présidentielles, de l'enterrement des primaires première classe, d'une France coupée en deux, Juppé, Sarkozy, le moment achetant les têtes de bois de la droite française. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Comme un moment suspendu, pas hors du temps, mais le genre d'instant qui fige, les mots du compagnon de Xavier Jugelet, policier tué la semaine dernière lors de l'attentat sur les Champs-Élysées, lors de l'hommage national qui lui était rendu ce matin, ont fait taire discorde et petites phrases pour rappeler que la parole pouvait être un peu une lumière dans l'obscurité. Un rendez-vous républicain, puisqu'autour de François Hollande était invité Nicolas Sarkozy, ex-président de la République, et les deux prétendants à l'Élysée, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ensuite, la campagne a repris ses droits dans un étrange contraste. D'un côté, Marine Le Pen, arpentant le terrain, et de l'autre, Emmanuel Macron qui y va tranquille, tranquillou bilou, même disent les observateurs les plus avisés, comme si la partie était presque gagnée. Après un discours sans passion dimanche soir et une soirée maladroite, le candidat d'En Marche désappointe, même au sein de son mouvement, et ses nouveaux amis n'y comprennent pas grand-chose, comme le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis.
Je n'ai pas trouvé que les 48 heures du candidat républicain étaient à un niveau tel qu'il repoussait l'attaque. Je pense que Jacques Chirac avait une certaine gravité face à Jean-Marie Le Pen. Je trouvais que il était satisfait, bon, je le comprends, hein, de son premier tour. Il pensait à tort que c'était fait. Ce n'est pas fait.
Voilà, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, sur RTL ce matin. Gaël Tchekalov, il y a un peu de légèreté chez Emmanuel Macron?
Oh non, je crois pas. Je crois qu'il y a aucune légèreté. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui aborde ce sujet avec gravité, cet entre-retour et cet affrontement avec Marine Le Pen. Après, ce qui peut être gênant chez lui, c'est deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que effectivement, il a une forme de candeur et de positive attitude, comme diraient nos amis les jeunes, il a envie de déclencher un vote d'adhésion, je pense, sur sa personne, plus qu'un vote de rejet vis-à-vis de Marine Le Pen, parce qu'il sait que ça peut entraîner aussi un mode de gouvernance après. Mais là où effectivement certains disent qu'il a un début de campagne compliqué, moi je crois que c'est pas si compliqué que ça. Il a fait un discours, c'est vrai qu'il ne lui ressemble pas tellement dimanche, mais en même temps qu'il l'ancrait comme présidentiable, qui était un tout petit peu scolaire. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas très lisible, c'est-à-dire que au fond, le seul moment où il a été totalement prévisible, c'était quand il était dans l'exercice du pouvoir, qu'il était le trublion d'un gouvernement qui disait noir et lui répondait rouge ou répondait blanc. Mmh. Et c'est comme ça qu'il a construit son originalité. Il est beaucoup plus imprévisible dans la conquête du pouvoir et au fond, quand il est habité christique, c'est-à-dire qu'il est lui-même passionné par son engagement, on dit il est dingue, mais quand il revient à quelqu'un de plus posé, on dit ah ben non, on préférait l'autre il y a 6 mois. Donc au fond, il est toujours en train de danser sur un pied et sur l'autre, parce que malheureusement, conquérir l'Élysée, ça oblige à être un petit peu mainstream, et donc alors, ça écrase la singularité.
Justement, vous l'avez dit, mainstream, mais Judith Vintraube, c'est vrai, Jean-Christophe Cambadélis faisait le parallèle avec 2002, lorsque Jacques Chirac a affronté cette fois-ci Jean-Marie Le Pen. On le sait très bien que le 7 mai prochain, il y a des personnes qui vont aller voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, mais qui n'apprécient pas le programme d'Emmanuel Macron. Donc, penser qu'il y a un vote d'adhésion, est-ce que ça paraît pas étrange?
Alors, moi, j'écoute avec intérêt l'explication de Gaël.
je n'exclus pas qu'effectivement, dans le monde merveilleux de, d'Emmanuel Macron, c'est avec Dominique Besnéard qu'il soutient, l'appelle La La Land. Il ne faut pas parler des choses qui fâchent, il ne faut pas parler de Marine Le Pen, il ne faut pas parler de ce qui inquiète. Alors, c'est possible que ce soit cette stratégie-là, mais c'est aussi possible que ce soit tout simplement une erreur d'appréciation politique et que ce candidat qui a fondé toute sa démarche En Marche sur la transgression du clivage gauche-droite, qui a dit « je suis là pour exploser ces vieilles frontières, prendre les bonnes idées à gauche et à droite » au moment ou jamais, où il se trouve en situation de le faire, de tendre la main aux électeurs, quelle que soit leur sympathie politique, qui ne veulent pas voter pour Marine Le Pen, à ce moment, ils le laissent passer, tout simplement, erreur politique, erreur stratégique.
C'est ça qui paraît
étonnant.
C'est
sa stratégie du départ, c'est sa stratégie de toujours, et au moment où il faut la déployer, il n'y a plus personne.
Thomas Guénolé, c'est vrai que c'est ça qui paraît étonnant, c'est que lui qui veut justement, il dit je suis non pas ni de droite ni de gauche, mais de droite et de gauche, ça veut dire rassembler tout le monde, là il pouvait le faire. Enfin, il peut le faire d'ailleurs face à Marine Le Pen. C'est vrai que beaucoup de gens ont été désappointés.
J'aurais une évaluation un peu plus brutale que ça. Je dirais que Emmanuel Macron doit arrêter les conneries, vite, vite. Là, il accumule les erreurs lourdes dimanche soir. Il a fait un discours pour jouir de sa victoire. Si on compare à Jacques Chirac le 21 avril 2002, enfin Jacques Chirac, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, et à l'époque, son image était détestable. C'était super menteur, etc.
Ça, ouais.
Le soir du 21 avril 2002, Jacques Chirac, il parle de des valeurs républicaines en danger, de la menace sur la République, de l'union sacrée pour la défendre. Il est irréprochable dans le fait de se comporter en homme d'État. Derrière, Emmanuel Macron, il fait un dîner avec des happy few, alors que l'extrême droite est au second tour pour célébrer son succès, ce qui, moi, ne me va pas. De manière plus générale, finalement, c'est une attitude d'enfant roi et pas une attitude d'homme d'État. Enfin, erreur colossale, il réclame qu'on vote pour lui au second tour par adhésion. Pardon, mais pour tous ceux qui ont voté plus à gauche que lui au premier tour, on fait quoi ? On fait quoi exactement ? On reste chez nous, du coup ? Laissez-nous voter Front Républicain, mince.
Voilà, vous militez pour ça, en tout cas. On va y revenir dans un instant, l'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Emmanuel Macron rectifie le tir ce soir après avoir fêté un peu trop tôt la victoire. Le candidat d'En Marche affirme qu'il n'a jamais considéré que quoi que ce soit était gagné. En marge d'une visite à l'hôpital de Garches, Emmanuel Macron s'est dit très fier d'être devant Marine Le Pen. À l'issue du premier tour, il réagissait aux propos de François Hollande qui s'est inquiété en fin d'après-midi qu'il n'y ait pas eu de prise de conscience du niveau atteint par la candidate du Front National. Du neuf ce soir dans l'enquête sur l'attentat déjoué de la campagne présidentielle. 5 personnes interpellées dans l'entourage des 2 personnes arrêtées à Marseille la semaine dernière. Interpellation dans le sud et l'est de la France. Il s'agit pour les enquêteurs de vérifier l'existence d'éventuelles complicités. Les Kurdes de Syrie appellent la coalition à faire cesser les raids aériens des Turcs. Des frappes contre leur position dans le nord de la Syrie ont fait 18 morts ces dernières heures. Les Kurdes de Syrie font partie des forces qui combattent aujourd'hui Daesh, mais ils sont régulièrement pris pour cible par les avions turcs. Notez qu'au moins 15 civils sont morts à Mossoul en Irak, tués par des djihadistes de l'organisation État islamique qui se sont fait passer pour des forces de sécurité irakiennes. Will Smith, Paolo Sorrentino et Agnès Jaoui, un acteur américain, un réalisateur italien et une actrice française dans le jury du 70e Festival de Cannes qui comptera au total 4 femmes pour 9 jurés. Annonce ce soir des organisateurs, jury présidé cette année, on le savait déjà, par le cinéaste espagnol Pedro Almodovar.
France Info. 20h, 21h, Les Informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les Informés de France Info, nous parlons d'Emmanuel Macron qui, depuis dimanche soir, est critiqué pour cette absence de présence, même sur le terrain, même si aujourd'hui il l'a repris. Alors, on l'a entendu chez Pierrick Bonneau, aujourd'hui à Laval, François Hollande a déclaré à l'AFP, je pense qu'il n'y a pas eu de prise de conscience de ce qui s'est passé dimanche, tout le monde a regardé le résultat avec un ordre d'arrivée et on a oublié que c'était quand même Marine Le Pen qui était au second tour, ce n'est pas rien, l'extrême droite, dit le président de la République. Et tout à l'heure, donc Emmanuel Macron, qui était en visite dans un hôpital, lui a répondu, on l'écoute.
Jusqu'à quelques semaines, très peu de gens nous mettaient devant Marine Le Pen. Et si j'ai été très heureux de fêter ce premier tour avec beaucoup de fierté avec mes équipes dimanche soir, n'en déplaise aux commentateurs chagrins, c'est précisément parce que nous avions plus de 2 points d'avance sur Marine Le Pen. Et c'est un acquis que je veux ici souligner.
Voilà, Christophe Alix, est-ce que là on a justement un élément de réponse sur ce début de campagne un peu mollasson ?
Oui, il commence à se... à se justifier. Déjà, il dit j'ai de leçons à recevoir de personne. Oui. Il l'a dit dimanche soir à la Rotonde, je crois, à un journaliste. Oui. Il l'a redit aujourd'hui. Donc vraiment, il est sur... Apparemment, Emmanuel Macron, il écoute pas mal, mais il veut surtout pas donner l'impression de réagir sous la pression... Voilà, sous la pression des commentaires. Et là, je viens de voir, apparemment, il a dit également ce soir, il faudra vous habituer, je ne suivrai jamais le diktat des médias.
Des médias.
Voilà. Et alors, en plus, il dit, il faudra vous habituer, ça veut dire qu'il est également déjà, il est déjà président.
Pourquoi il est gonflé, justement, le diktat des médias. Oui, arrêtez de me cirer les pompes, ça suffit maintenant. Je serai intraitable.
Non, mais je pense qu'objectivement, il faut aussi reconnaître le fait qu'il est quand même très, très scruté, davantage que ne l'étaient les autres. Et là, par rapport à Marine Le Pen, c'est effroyable parce que tout le monde a parlé d'une erreur catastrophique, la rotonde, après avoir parlé d'une erreur catastrophique quand il a parlé de l'île de la Guyane. Et ça fait un mois et demi qu'on parle de l'erreur de l'île de la Guyane et l'affaire du Veldiv pour Marine Le Pen, ça a fait deux jours. Donc si vous voulez, il y a quand même un peu de poids, de mesure.
C'est pas du tout comparable.
Et surtout, on en a quand même beaucoup
mais
parlé.
Il est quand même très très scruté, beaucoup plus que.
Ah bah c'est normal.
Plus
c'est
que
normal,
les autres.
Il va être président.
Et donc,
non seulement il va être président, mais en plus
il
a surgi de nulle part. Il a fait une conquête éclair. C'est un phénomène inouï, inédit dans la vie politique française. Et cette scrutation, cette attention des médias, il s'en nourrit, il en vit, et c'est ce qui explique qu'il ait pu émerger.
Justement, Julie Vintraud, dans un instant, on va parler du Front National. Julie Vintraud, mais demain, on le sait, Emmanuel Macron, donc. Ira dans la Somme, hein, il enchaînera avec deux meetings dans le Nord.
Il bouge.
Mercredi, il rencontrera les salariés de Whirlpool. Alors ce sont des terres sur lesquelles le Front National a fait des très gros scores. C'est là un déplacement stratégique justement. C'est aller se confronter directement.
Oui, bah c'était absolument nécessaire parce que. Bon, la rotonde, évidemment, est une erreur, une maladresse, d'autant qu'elle rappelle le second tour de Nicolas Sarkozy, second tour Victor Leu. Là, on est au premier tour. En plus, le score de Marine Le Pen, même si elle est arrivée seconde, est extrêmement important.
7 millions de voix.
Nous, on voit beaucoup de gens aussi bien se réclamant d'un projet de société de gauche qu'à droite, ayant voté pour François Fillon, qui ne veulent pas envisager de voter pour Emmanuel Macron.
Oui, on en connaît tous d'ailleurs autour de cette table qui nous
plein,
dit ça.
Et moi, j'en ai vu plein sur le terrain dans les meetings. Donc, je pense que les sondages même sous-estiment Marine Le Pen, alors que l'écart est déjà assez étroit, enfin relativement étroit. 40-60, c'est déjà plus...
Thomas Guénoé, juste d'aller, Emmanuel Macron, d'aller à Whirlpool mercredi, une entreprise en difficulté très symbolique aujourd'hui. C'est important aussi pour lui d'aller se confronter à ce genre de situation. C'est très critiqué par les syndicats sur son attitude quand il était ministre de l'économie. Ça va être un rendez-vous important pour lui, pour se crédibiliser.
Alors, c'est tout à son honneur de le faire. Parce que, après tout, se coltiner le terrain, ça fera partie du job s'il est élu. Et de toute façon, ça semble nécessaire par rapport à la question sociale. C'est dangereux, c'est casse-gueule pour lui, parce qu'il a un côté, parfois, Macron la gaffe. C'est-à-dire, quand il a un déplacement de terrain où il a sorti cette énormité, vous savez, le meilleur moyen de pouvoir se payer un costume, c'est de travailler. Donc apparemment, il n'est pas au courant qu'il y a des millions de Français qui travaillent déjà très dur et qui n'auront néanmoins jamais les moyens de se payer un beau costume. Donc il est capable de ce genre de gaffe-là, pas par méchanceté, mais par déconnexion, vous voyez.
Je voudrais juste terminer
là-dessus et donc de dire dans l'état d'esprit c'est une bonne chose qu'il le fasse et c'est tout à son honneur. Je signale juste que c'est casse-gueule compte tenu de ses antécédents et il n'est pas à l'abri d'une opération d'agit-prop, c'est-à-dire des gens qui font exprès de venir à l'événement. Ça s'est déjà vu dans d'autres campagnes présidentielles, pour le clasher et qu'il n'y ait que ça qui reste, un affrontement très brutal, avec quelqu'un qui maîtriserait la rhétorique pour le coincer. Il faut qu'il fasse très attention, il risque ce genre de piège.
Je voulais juste souligner deux choses. D'abord, il a énormément sillonné depuis le mois de septembre l'Est et le Grand Est, parce qu'il a choisi d'aller se battre sur les terres lepénistes. Donc moi, j'ai fait énormément de déplacements avec lui, effectivement des déplacements par moments compliqués, avec des gens qui venaient, qui l'interpellaient, des gens qui étaient effectivement en souffrance, en misère. Et en l'occurrence, ça peut lui arriver de déborder. C'est la deuxième chose que je voudrais dire. C'est que oui, quand il déborde, c'est pas parce que c'est Gaston Lagaffe et parce qu'il est déconnecté du monde. Je crois, pour le connaître un petit peu, que lorsqu'il déborde, l'accorde, mais c'est aussi un travers, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de filtre entre lui et les autres.
Est-ce
pas
que
d'écran.
Je
vais juste finir ma phrase, si vous permettez. Pas d'écran entre lui et les autres, c'est-à-dire qu'il ne fait, comme il est convaincu que le monde n'est que bienveillance, il ne fait absolument pas attention à ce qu'il peut dire aux autres. Et donc, ça conduit à effectivement des débordements de langage qui, par moments, sont un tour de trop.
Je ne dirais pas que c'est parce qu'il est sincèrement en permanence dans une bienveillance, et je pense vraiment qu'il est sur certains sujets complètement déconnecté, que c'est un gros problème. Par exemple, quand il vous explique que l'alternative pour un jeune de banlieue aujourd'hui se résume à devenir chauffeur Uber ou dealer du shit. Ce qui est sympa pour tous ceux qui font des études ou qui font livreur, etc. etc. Donc je dis et je maintiens qu'il lui arrivait à plusieurs reprises de faire des déclarations qui sont déconnectées par rapport à un certain nombre de réalités, et ça c'est un problème.
Christophe Alix.
Mais c'est pas le seul dans la classe politique.
Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que Marine Le Pen va le pilonner comme le candidat des élites, le candidat de la globalisation, de la mondialisation sauvage, je crois.
Et en même temps, je vous coupe juste une seconde, parce que là, on va en parler dans un instant, mais on voit vraiment une France, en même temps, on voit une France coupée en deux aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire une France, aujourd'hui, l'Est, le Nord, le Sud-Est, plus touché, qui a voté Le Pen, l'Ouest, où il y a un peu moins, tout petit peu moins de chômage, qui a voté Emmanuel Macron.
Oui. Oui, et donc il est absolument indispensable pour lui qu'il aille se défende de cette image, parce que il y a des éléments de libéralisme d'ailleurs. Hein. Il est libéral un peu au sens philosophique du terme, au sens américain ou anglo-saxon, mais il n'est pas. Il veut surtout se détacher de cette image d'un ultra-libéral, d'un banquier.
Économiquement, ça a été fait. Il a quand même pas mal amodié son programme déjà. Il ne parle plus de sortir des 35 heures. En termes de réduction des dépenses publiques, il a beaucoup rabaissé ses ambitions.
Oui, mais pour les électeurs de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, il est encore celui-là.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant, et notamment de Marine Le Pen. Hein. On va parler de ce qui se passe pour elle en ce moment, puisqu'elle arpente le terrain. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
Christian Estrosi demande des sanctions à l'encontre de ceux qui ne voteraient pas pour Emmanuel Macron, dont l'exclusion définitive du parti de Françoise Ostalie, ancienne secrétaire d'État, qui a indiqué qu'elle voterait en faveur de Marine Le Pen au second tour. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur demande également l'exclusion des membres de Sens Commun. Cette organisation avait soutenu la candidature de François Fillon, puis indiqué qu'elle invitait ses membres à s'abstenir ou à voter blanc au second tour. La CGT, elle appelle à faire barrage à l'extrême droite et ne pas voter Marine Le Pen au second tour. Pas une voix ne doit se porter sur cette candidature, affirme l'organisation syndicale, sans pour autant appeler ouvertement à voter Emmanuel Macron, comme l'a fait la CFDT. J'ai commis des meurtres, mais Montigny, ce n'est pas moi. Le tueur en série Francis Holm, jugé devant les assises de la Moselle, plus de 30 ans après les faits, soupçonné du meurtre de deux garçons de 8 ans depuis le milieu des années 2000, après l'acquittement de Patrick Dehils, Francis Holm a toujours nié ces deux meurtres. 26 victimes des violences au Venezuela en près d'un mois de mobilisation contre le gouvernement de Nicolas Maduro. Deux hommes sont morts ce matin lors de manifestations dans le nord-est et le nord-ouest du pays. Tous les deux tués par balle selon le parquet vénézuélien. Et puis prochain match de Bastia à domicile se jouera à huis clos à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Bastia reçoit Rennes samedi prochain, 35e journée de Ligue 1. Sanction prise par la Ligue de football professionnel après les incidents qui ont émaillé la rencontre Bastia-Lyon.
Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Judith Vintraube du Figaro, également Thomas Guénolé, politologue de son état, Christophe Alix de Libération et Gaël Tchakaloff, écrivain. Alors ce matin, Marine Le Pen était-elle au marché de Rungis? Et depuis hier, alors on a remarqué que quelque chose avait changé chez la présidente du Front National. Son vocabulaire, elle semble atteinte d'un étrange syndrome, le syndrome du bistrot. Et oui, impossible de terminer ses phrases sans avoir un réflexe de comptoir. Ça a commencé hier sur un marché du Pas-de-Calais et ça a continué à Rungis ce matin, Marine Le Pen.
Le vieux Front Républicain tout pourri.
Monsieur Macron est faiblard.
On sert le kiki des Français de plus en plus.
Voilà, alors ça c'est Marine Le Pen. Donc ce matin, donc c'est assez étrange qu'il y ait chacun de vous qui les avez suivis, ces candidats. Marine Le Pen là, elle fait quoi? Elle essaye de faire peuple comme ça, en disant, voilà, je vais utiliser un vocabulaire qui a changé quand même.
Exactement son système. Alors, pour ne pas vous mentir, pour la connaître un peu dans la vie privée, je suis obligée de le dire, c'était nécessaire, de toute façon, pour que je fasse mon livre.
Vous avez suivi tous les candidats, je rappelle.
J'ai suivi tous les candidats, et notamment, et pendant la conquête du pouvoir, la campagne électorale, mais aussi, ça, il y a eu des débordements sur la vie privée. Elle parle un peu comme ça, dans la vie privée, quand même. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, de toute façon, elle a un système d'imprégnation, Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen, plus il y a de douleur en face, plus elle dit je suis douloureuse comme vous, donc je suis la seule à pouvoir vous comprendre. C'est la miss imprégnatrice de la place politique. Donc je pense que là effectivement elle est dans le déroulé naturel de sa stratégie politique qui a toujours été celle-ci et qui est pas tout à fait la même que celle qu'avait son père.
Ça marche justement, ce genre de stratégie-là, Julie Vintraub, à votre avis, de duo.
En tout cas, ce qu'elle vise, c'est la brèche qu'elle a perçue entre Emmanuel Macron et l'électorat le plus populaire qui vraiment a du mal à adhérer à l'idée que la mondialisation, que l'amélioration de la compétitivité de la France, aussi coûteuse soit-elle de façon temporaire en termes de chômage, et la seule façon
qui dure,
et la seule façon à terme de s'en sortir. Alors mon voisin Thomas Guénolé qui est cultivé n'y adhère pas du tout.
Non mais j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La mondialisation malheureuse.
Quelqu'un qui est au chômage, qui ne voit pas de moyens de s'en sortir parce que sa région est en train de se désertifier industriellement, ne peut absolument pas adhérer au discours d'Emmanuel Macron. Donc évidemment c'est cette clientèle là qu'elle vise, une clientèle relativement peu diplômés, d'où ces difficultés à se reconvertir et d'où le changement de langage de Marine Le Pen, qui si en privé elle est facilement familière et assez triviale, elle a en revanche un niveau de vocabulaire et de construction sémantique qui est pas celui-là. Elle ne parle pas simple, elle ne parle pas peuple. Elle peut utiliser un langage trivial mais avec un français très très solide.
Thomas Guénolé.
Finalement, ce que Marine Le Pen essaye d'installer, c'est un combat entre deux France.
C'est ça.
On peut le dire comme ça. Moi, je pense que ce qui empêche cela de fonctionner, c'est qu'il n'y a pas deux France aujourd'hui, il y en a quatre. C'est ce que j'avais appelé au début de 2017 la quadripolarisation. Et donc, pour moi, il y a deux questions qui structurent la vie politique française aujourd'hui. Il y a pour ou contre la mondialisation, sous sa forme actuelle, et ouvert ou hostile envers les minorités. J'entends par là la minorité LGBT, qu'on appelle parfois, on tourne autour en disant valeur familiale, ou minorité maghrébine, et on tourne autour en parlant d'islam. Donc si vous êtes contre la mondialisation et ouvert envers les minorités, vous êtes altermondialiste, ça donne Mélenchon. Si vous êtes pour la mondialisation et ouvert envers les minorités, ça donne ceux qu'on appelle parfois les néolibéraux, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Pour la mondialisation et hostile aux minorités, c'est ce qu'on peut appeler les conservateurs, ça donne François Fillon. Et contre la mondialisation et hostile aux minorités, ça donne le bloc xénophobe et ça donne Marine Le Pen. Et donc, attendez juste, et je veux dire juste, ce qui pose problème pour Marine Le Pen, c'est qu'elle n'a pas en face d'elle que le bloc Macron. Il y a des renforts possibles, ça dépend quelle question vous faites passer en premier. Et moi, je pense qu'il y aura quand même une dynamique, et en tout cas, pour être parfaitement franc, je l'espère, qu'il y aura une dynamique majoritairement sur le bloc altermondialiste, sur le rejet au niveau des valeurs racistes, et que du côté de l'électorat de droite, ça sera surtout sur le rejet au niveau du portefeuille, c'est-à-dire sur la sortie de la zone euro.
On sent pourtant Marine Le Pen qui a tout de suite dit nous on est contre la mondialisation et Macron candidat de la mondialisation. On a tout de suite
légèrement contre la minorité maghrébine.
Bien sûr, mais c'est vrai qu'elle a positionné tout de suite le combat.
C'est ça.
Là-dessus.
C'est pour ça. Elle essaye de faire ce clivage-là et de mettre sous le tapis qu'elle a quand même d'autres choses à dire sur l'autre question.
Elle n'est pas contre la minorité maghrébine. Elle mène combat acharné contre l'islamisme, en tout cas c'est comme ça qu'elle le définit, qui se traduit par une accusation, une mise en doute de tout musulman. Ce qu'on appelle l'assignation à résidence. C'est assez différent. Ça veut dire par exemple que vous ne trouverez pas dans les discours de Marine Le Pen de phrases mettant en cause l'islam en tant que tel.
Beaucoup ont essayé,
ils sont secs à chaque fois qu'on leur demande de citer une accusation précise.
Bon, exceptionnellement, je suis d'accord avec Thomas Guénolé sur la liste des quatre France, parce que effectivement, il y avait quatre France sur le premier tour qui sont, à mon avis, effectivement, celle que vous décrivez, mais en termes de public, c'est les France historiquement qui représentent les familles traditionnelles françaises, la France historique rurale du Parti communiste, celle un peu diplômée qui correspond à l'UDF de qui pourrait être celle d'Emmanuel Macron, celle du Parti Socialiste plus jeune, plus banlieusarde,
etc. Je suis totalement
etc.
d'accord, c'est un retour aux fondamentaux.
Et celle un peu retraitée, aisée, qui pourrait être celle de François
c'est
Fillon,
un retour aux fondamentaux.
Et qui était historiquement celle du RPR. La question c'est, où vont aller la France du RPR?
Le bloc de Marine Le Pen n'existait pas sous cette forme-là avant,
oui,
comme force aussi puissante, si je peux me permettre. C'est pour ça que...
Où vont aller le bloc du RPR et le bloc du PS?
Ils vont se partager.
Et surtout, oui, qu'est-ce que ça signifie que les Français aient effectivement donné l'image de cette France déchirée, parce qu'à l'étranger, ce qui est intéressant, ça je suis sûre que Judith Ventrou le connaît beaucoup mieux que nous, c'est-à-dire que la presse étrangère a titré sur la France déchirée, et qu'est-ce que ça dit de la détestation des Français à l'égard du politique?
On va continuer, vous avez posé beaucoup de questions, on va tenter d'y répondre à tout ça dans un instant. On va également parler bien sûr de la droite française et des primaires dans un instant. Voilà le programme à suivre des Informés de France Info.
L'entre-deux tours, c'est le Tour de France de France Info pour comprendre le vote de dimanche. Jusqu'au second tour de la présidentielle, une ville, une journée avec les Français en direct au micro de Nicolas Taillard.
Première étape demain à Rouen pour comprendre le phénomène Macron. Deuxième étape jeudi à Denain dans le Nord pour comprendre l'ancrage FN. Troisième étape vendredi à Épinay-sur-Seine pour comprendre l'échec historique du PS.
L'entre-deux tours, c'est sur France Info.
France Info Météo avec Gautier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gautier.fr.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Perturbé et frais des Pyrénées vers le Massif central, la Bourgogne, l'Alsace, Rhône-Alpes, PACA, de la pluie ou des averses, plus marquées sur la façade est avec de la neige en montagne, jusqu'à basse altitude dans le nord-est autour de 400 mètres. On trouvera quand même des éclaircies sur le Languedoc-Roussillon avec le vent, des éclaircies aussi en Corse. Ailleurs, un ciel changeant se mettra en place, des éclaircies, des nuages, de la Bretagne vers la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, des averses parfois orageuses et du grésil dès le matin. Ces giboulées progresseront vers Poitou-Charentes, l'Île-de-France, l'Orléanais, les Ardennes. On aura moins d'averses et un peu plus d'éclaircies entre l'Aquitaine, le Berry et la Lorraine. Il fera frais demain matin, retour des gelées au nord. L'après-midi, on sera souvent 4 à 8 degrés sous les valeurs de saison. 9 degrés à Dinard et Besançon, 10 à Boulogne-sur-Mer, Bourges, Lyon, 12 à Paris et à Nantes, 14 pour Agen, encore 17 degrés à Marseille et 22 à Ajaccio.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Yasmina Adila. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Emmanuel Macron tente de s'expliquer. Le candidat d'En Marche est en ce moment l'invité du 20h de France 2. Il répond aux critiques de ses concurrents qui lui reprochent d'avoir fêté sa victoire au premier tour dans une brasserie parisienne. Dimanche soir, nous nous sommes réjouis. C'est tout à fait naturel, a déclaré Emmanuel Macron, avant d'ajouter qu'il ne changera pas de projet. Le candidat d'En Marche et Marine Le Pen étaient présents ce matin à l'hommage national rendu à Xavier Jugelet, cérémonie qui se tenait à la préfecture de police de Paris. Xavier Jugelet a été tué la semaine dernière sur les Champs-Élysées. Attaque revendiquée par Daesh, le gardien de la paix a été élevé au grade de capitaine et de chevalier de la Légion d'honneur. Robert Ménard, reconnu coupable pour provocation à la haine et à la discrimination, il écope de 2000 euros d'amende. L'élu doit également verser 1000 euros de dommages et intérêts à chacune des associations antiracistes qui se sont portées partie civile. Ce proche du Front National était jugé pour avoir déclaré qu'il y avait trop d'enfants musulmans dans les écoles de sa ville. Ce n'est pas la première fois que l'élu proche du Front National tient des propos, de tels propos. Robert Ménard avait même qualifié les enfants musulmans des écoles de Béziers comme un problème. L'association La Maison des Potes était partie civile dans ce procès. Pour Samuel Thomas, qui en fait partie, cette condamnation est une victoire.
Pour tout le flot de propos racistes qu'il déverse depuis des années, c'est la première qui est obtenue. Donc forcément, c'est une victoire, puisque jusqu'à présent, il avait échappé aux condamnations. Il faisait disparaître les affiches le jour où un huissier de justice venait les constater dans sa ville. Il a toujours joué de tout un tas de stratégies, de tactiques pour éviter les condamnations. Enfin, il est condamné. Bon. Et c'est le début de ce que nous avons décidé de faire contre les élus d'extrême droite. Il faut les faire condamner les uns après les autres, parce qu'on ne peut pas considérer qu'on peut continuer de se présenter aux élections alors qu'on sème le poisson de la haine et du racisme. On espère que ça aura un impact sur le deuxième tour, que les électeurs qui s'apprêtent à donner encore une voix au Front National réalisent qu'ils donnent des voix à des gens que la justice condamne pour leur programme. Leur programme est contraire à la République.
Robert Ménard a annoncé sur son compte Twitter qu'il comptait faire appel de cette condamnation. Francis Holm a pris la parole à son procès. « Montigny, ce n'est pas moi », a lancé le tueur en série devant les assises de Moselle. Il a réaffirmé son innocence dans la mort des deux enfants de Montigny-lès-Metz, deux petits garçons tués en 1986. Première demi-finale de la Coupe de France ce soir. À 21h, Angers reçoit Guingamp, respectivement 14 et 9e du classement. Belle affiche demain. Le PSG affrontera au Parc des Princes Monaco. Coup d'envoi à 21h05. Ils seront jugés le 15 mai. Cinq hommes soupçonnés d'avoir participé aux violences en marge du match Bastia-Lyon. Parmi eux, le directeur des services généraux du club corse, Anthony Gastonini. France Info, il est 20h33. Tout de suite, vous retrouvez les informés avec Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils ont adopté l'actualité et ils en sont plutôt contents. Hein. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Judith Vintraube du Figaro, le politologue Thomas Guénolé, Christophe Alix de Libération et Gaël Tchakaloff, écrivain, auteur, entre autres, de Divine Comédie, publiée chez Flammarion. Quelle personnalité inspire la vie politique française? Alors, on peut citer De Gaulle, Jaurès ou Raymond Aron, mais également Harry Potter, bah oui, puisqu'enfin, plutôt son terrible ennemi, Harry Potter, Voldemort, mais chut, faut pas dire son nom. C'est fou comme celui dont on ne doit pas dire le nom a beaucoup d'amis depuis dimanche soir. La CGT, par exemple, hein, elle appelle à ne pas voter Marine Le Pen. Les Républicains appellent à faire barrage au Front National. Mais on vote pour qui alors? Pour quelqu'un. Mais qui? Bah chut, on s'abstient alors. Mais non, mais faut pas dire son nom, surtout pas. Alors vous voulez pas dire que vous votez Macron? Ah, c'est lui qui est au second tour, on savait pas, désolé. Hein. Les Républicains s'évitent pour l'instant une crise, mais préparent la suite. Ce matin, petit déjeuner et déjeuner de Sarkozy, ce soir drink, entre jupéistes, avec présence du maire de Bordeaux. Les lames s'affûtent et n'attendent plus qu'un signal pour sortir le fourreau. Ça donne un petit peu cette impression. Juste avant, Judith Vintraube, quand on a entendu tout à l'heure Christian Estrosi, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dire « Il faut que les Républicains excluent toute personne qui ne soutienne pas Emmanuel Macron », il fait du zèle, Christian Estrosi ?
Non, mais je trouve que sur sa lancée, il devrait aussi exclure et interdire de voter à droite tout électeur qui ne voterait pas Macron à la prochaine présidentielle. C'est une démarche qui n'a aucun autre sens que la construction politique qui est en train d'édifier Christian Estrosi, après avoir été élu grâce aux voix de gauche à la tête de la région PACA. Il donne quand même tous les signes de quelqu'un qui ne se sent plus du tout chez lui dans sa famille politique d'origine. Rappelez-vous, il s'est fait huer
lors du
meeting de François Fillon, parce qu'il avait demandé à Fillon de se retirer. Ensuite, il a vu Macron pour ce qu'il appelait un accueil républicain à Marseille, et il s'est refait huer à Nice lors d'un autre meeting de Fillon. Christian Estrosi ne se sent plus à l'aise dans la famille, d'où cette injonction de tolérance qu'il veut traduire par une expulsion, une interdiction des dirigeants qui ne respecteraient pas la consigne.
Alors justement, de consigne, on ne sait pas trop, Christophe Alix, parce que les Républicains ne citent pas depuis hier le nom d'Emmanuel Macron. Il n'est pas cité. Ça veut dire quoi? C'est parce que aussi les militants, on le voit, hein, d'ailleurs dans les différents journaux, il y a des micro-trottoirs, on le voit, il y a des militants qui sont, même dans Libération ce matin par exemple, très divisés. Vous avez pris le cas, vous, c'était à Villefranche-sur-Mer. Donc ouais. Villefranche-sur-Mer, c'est dans les Alpes-Maritimes. Et vous avez pris le cas, il y avait trois personnes, des fillonistes, un qui va voter Macron, un autre Le Pen, un autre qui va s'abstenir. On voit quand même que il y a une famille républicaine là, qui est des républicains, oui, très partagés. Hein.
Oui, la famille est partagée, mais ce qu'on voit bien, peut-être aussi, et ça risque aussi d'être le même cas à gauche, c'est que s'il y a une dynamique présidentielle pour Macron, ça va être très difficile. Là, on est encore au début, on est à peine au début de l'entre-deux-tours. Ça va être très difficile quand même de tenir l'unité un petit peu de ce parti, tout comme il sera très difficile de tenir l'unité des socialistes. Et moi, ce que je me demande, là, en les entendant tous depuis ce matin, c'est s'il n'y en a pas certains qui, finalement, font d'une certaine manière le pari qu'il ne faudrait pas que Macron soit trop haut. Parce que si Macron est trop haut, ça va totalement balayer les vieilles structures que sont les Républicains et les socialistes. Et que j'ai l'impression qu'il y en a, comme Bruno Le Maire, qui s'est un peu positionné ce matin, qui est jeune et qui s'est dit, je suis prêt, tout va voler en éclats. Et moi, je suis prêt éventuellement à rentrer dans un gouvernement et je suis prêt à venir avec Emmanuel Macron.
Christian Estrosi a dit la même chose.
Et Christian Estrosi. Et puis qu'il y en a d'autres qui, au contraire, essayent de freiner parce qu'ils vont essayer le plus plus possible de garder la vieille logique. Mais moi, j'ai l'impression que la logique de la Ve République, elle n'est pas complètement morte quand même, et que même si Macron fait un mauvais début de deuxième tour, s'il fait un bon score dans deux semaines, il peut balayer les républicains et les socialistes.
C'est quand même un jeu très dangereux, parce que tout à l'heure, je parlais de François Hollande qui dit « je ne pense qu'il n'y a pas eu de prise de conscience de ce qui s'est passé dimanche en parlant d'Emmanuel Macron », mais en fait, ça pourrait s'appliquer à tout le monde, aussi bien au Parti Socialiste que chez les Républicains, non, Thomas Guénolé ce que vient de dire Christophe Alix en disant que personne ne veut que Emmanuel Macron soit trop haut pour pouvoir garder...
Une supposition.
Non, c'est quelque chose que j'ai entendu, moi, effectivement. C'est quelque chose que j'ai entendu chez des sympathisants de tel ou tel bord, et des bords assez variés. Donc oui, effectivement, ce type de raisonnement, dans la partie de la population la plus politisée, ce type de raisonnement existe, oui. Il me semble, moi, je ne vais pas à nouveau être grossier à votre antenne, substance, je suis en très... Je vais le formuler de manière courtoise, je suis en très profond désaccord avec ce type d'attitude, et je pense que c'est extrêmement dangereux. Après, juste, je complète avec un élément. Il se trouve que moi, Villefranche-sur-Mer, j'ai grandi quasiment à côté. D'accord. Et donc, en l'occurrence, j'ai encore des attaches familiales là-bas et des attaches amicales aussi. Et j'entends des choses par rapport au second tour. Et donc, il y a, si vous voulez, en termes de témoignage personnel, ce que j'entends beaucoup, ce sont des choses de type « on nous a volé l'élection présidentielle ». Avec le complot pour abattre François Fillon avec des affaires.
D'accord, ça c'est parole de militants, quoi. D'accord.
Non, d'électeurs.
D'électeurs
de droite, d'accord. Pas particulièrement fillonistes. Oui, on nous a volé notre victoire, c'était nous qui devions gagner. Primo. Deuxièmement, Macron, c'est Hollande.
Oui,
ça oui, c'est très fort.
Ça a été la campagne de François Fillon.
Vous voyez. Et il y a, soit de rester chez soi ou de voter blanc. Pour une partie, partie minoritaire de ceux qui m'en ont parlé, je vais être précis, mais le phénomène existe vraiment. Il y a aussi ceux qui envisagent carrément d'aller voter Le Pen. On est dans les Alpes-Maritimes, il y a une porosité assez forte, mais quand même, il y a une tentation très réelle, c'est même pas une tentation, c'est une envie d'aller voter Le Pen. C'est le vote, je les emmerde.
Gaël Tchekaloff.
Oui, c'est un tiers.
Ce qui est intéressant,
c'est à peu près un tiers de l'électorat.
Ce qui est intéressant, c'est jusqu'où vont aller les ravages des identités fondatrices. Je parle de celles qu'on avait au début de l'année, c'est-à-dire Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Est-ce que Nicolas Sarkozy va poursuivre son rêve de cohabitation jusqu'à faire en sorte de l'avoir, cette cohabitation, mais avec Marine Le Pen, parce qu'il est quand même sacrément en train de danser au-dessus du volcan. Et jusqu'où va aller Alain Juppé dans son rapprochement avec Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, il y a une vraie gémellité, une vraie similarité sur l'humanisme, sur la formation qui leur enlève, et je dois le dire à tous les deux, un côté un peu revanchard, et sur une manière de faire de la politique qui est plus dans la stratégie que dans la tactique. Et je pense que si Nicolas Sarkozy continue à jouer avec le feu, non seulement il peut faire passer Marine Le Pen, mais si Emmanuel Macron gagne, il peut prendre Alain Juppé comme Premier ministre. Donc il aura tout gagné.
Ah, d'accord. Bon, allez, on va continuer à parler de la droite. Dans un instant, l'info à 20h40. Pierrick Bonneau.
Et la mise au point d'Emmanuel Macron, après avoir donné l'impression de fêter un peu trop tôt la victoire dimanche soir, le candidat En Marche affirme qu'il n'a jamais considéré que quoi que ce soit ait été gagné. En marge d'une visite à l'hôpital de Garches, Emmanuel Macron s'est dit très fier d'être devant Marine Le Pen à l'issue du premier tour. Il réagissait à propos de François Hollande, qui s'est inquiété en fin d'après-midi qu'il n'y ait pas eu de prise de conscience du niveau atteint par la candidate du Front National. L'hommage aux policiers tués sur les Champs-Élysées jeudi dernier, cérémonie en mémoire de Xavier Jugelé ce matin à la préfecture de police de Paris. Le président Hollande et les deux finalistes de la présidentielle y ont assisté. Le chef de l'État a notamment dénoncé la récupération politique de cet événement visant, sans la nommer, Marine Le Pen, qui avait vivement réagi à la fin de la semaine dernière. Xavier Jugelé, tué jeudi soir sur les Champs-Élysées, était homosexuel. Son compagnon lui a d'ailleurs rendu un vibrant hommage ce matin. Et ce soir, le ministre de l'Intérieur saisit la justice après des propos homophobes sur différents réseaux sociaux, des messages injurieux, publiés notamment sous le nom d'un certain Ernest Manurin, qui serait un proche de l'humoriste controversé Dieudonné. Les États-Unis profondément préoccupé par les bombardements turcs de ces dernières heures au nord de la Syrie et de l'Irak, sur des positions kurdes. Le département d'État s'inquiète de l'absence de coordination avec les États-Unis et la coalition également engagée dans la lutte contre Daesh dans ces deux pays.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de la situation à droite, hein, chez les Républicains après la défaite de François Fillon. On sait que, eh bien, les camps s'affirment. Certains veulent soutenir Emmanuel Macron, le disent. D'autres vont voter Macron sans le dire. D'autres, on ne sait pas du tout. Thomas Guénot, vous vouliez juste rajouter.
Oui, par rapport à ce que disait Gaël sur le fait qu'il faudra un moment arrêter de jouer avec le feu par rapport au fait d'être complaisant sur la possible montée de Marine Le Pen. Je voudrais ajouter un élément à cet égard, soit pour les auditeurs qui nous écoutent, qui envisageraient de voter Marine Le Pen ou qui connaîtraient des gens qui envisageraient Marine Le Pen en se disant à eux-mêmes, après tout, il y a les législatives derrière, donc c'est pas grave parce qu'elle peut pas avoir une majorité aux législatives et donc ce sera bloqué derrière. Alors, moi, je voudrais rappeler que dans la Constitution de la Ve République, il y a l'article 16.
Qu'est-ce que c'est ?
L'article 16, c'est un article qui permet au président de la République de prendre les pleins pouvoirs s'il y a une menace sur la République. Quelle est la seule autorité légitime à définir s'il y a une menace ou pas ? Le président de la République. Quelle est la seule autorité, je dis bien la seule, enfin le seul pouvoir, pardon, pour être étymologiquement correct, quel est le seul pouvoir qui peut arrêter l'exercice des pleins pouvoirs quand il a été déclenché ? Le président de la République lui-même.
Le président de la République est irresponsable dans la Ve République.
Et y a-t-il un contre-pouvoir ? Y a-t-il un contre-pouvoir qui peut l'arrêter dans l'exercice des pleins pouvoirs ? Non, aucun. Contrairement à ce que j'entends souvent, le Conseil constitutionnel peut juste dire, à un moment donné, au bout d'un mois, quand même vous abusez, il n'y a pas matière. Mais il ne peut pas l'arrêter, le Parlement ne peut pas l'arrêter, l'autorité judiciaire ne peut pas l'arrêter, et il peut faire absolument ce qu'il veut, c'est la définition même des pleins pouvoirs. Je ne dis pas, je ne veux pas faire de procès d'intention, je ne dis pas que Marine Le Pen va nécessairement le faire. Mais ce que je dis en revanche, et je veux être clair là-dessus, est-ce que vous avez confiance en Marine Le Pen sur le fait de ne pas utiliser l'article 16 ? Pas moi.
Alors, après, parce que je reviens, mais je vous en prie, réagissez.
Je comprends la volonté pédagogique qui anime Thomas Guénolé d'évoquer le scénario du pire pour dissuader les électeurs de voter Marine Le Pen, mais je crois que malheureusement...
c'est aussi pour décrire quelque chose qui me semble être un risque objectif.
Cette technique a tellement été utilisée qu'elle produit exactement l'effet inverse à celui recherché. Il suffit de prendre le programme de Marine Le Pen, son programme économique, de l'appliquer et de voir quel effondrement total. Mais si vous pensez que Mélenchon a raison, vous ne serez pas d'accord avec moi quand je vous dis que le programme économique de Marine Le Pen est désastreux.
Je ne me suis pas prononcé sur ce point, je crois.
Pour dissuader les électeurs qui ont peur pour leur pension quand ce sont des petits retraités, par exemple, les électeurs qui sont entrepreneurs, enfin les gens qui veulent que la France ne se referme pas économiquement sur elle-même et ne soit pas recluse. Alors, et ouvre l'Europe.
Je précise juste une chose.
Prenons les arguments qui existent.
Juste préciser une chose à propos des retraités, parce que je lisais dans le Figaro justement sur les études du scrutin, et les retraités ont voté majoritairement François Fillon, ensuite Emmanuel Macron et ensuite Marine Le Pen.
Oui, les vieux votent pas FN.
Voilà,
ils sont pas du tout.
Les retraités pensent à leur retraite aussi.
Exactement. Alors juste une chose.
Et ils pensent notamment aux conséquences désastreuses qu'aurait une sortie
économique
de l'euro et de l'Union européenne.
Christophe Félix, juste une chose à propos des Républicains. On a vu justement une tension. On en reparlait de nouveau. Entre Alain Juppé, voilà, qui est reparti, Laurent Wauquiez même, qui ne veut pas dire le nom d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'à votre avis, finalement, tous ces gens peuvent cohabiter encore dans le même parti ?
C'est pas évident du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une sorte de mouvement symétrique à gauche et à droite. C'est-à-dire qu'à gauche, Macron fait un peu imploser le vieux parti social, le parti socialiste entre des gens qui probablement dans les prochains mois, vont aller tenter peut-être d'aller former une nouvelle force politique avec Jean-Luc Mélenchon, donc une gauche de gauche, et puis l'autre qui va être une gauche social-libérale, centriste, social-démocrate à l'allemande, enfin appelons ça comme on veut. Et peut-être également qu'à droite, il peut se passer la même chose. À une réserve près, comme vient de le dire Judith, tant que Marine Le Pen reste sur cette ligne anti-européenne sortie de l'euro, il y a un vrai problème à droite, là, voilà, parce
c'est
que la cassure identitaire, elle est là.
C'est la ligne qui lui a permis de grimper. Hein.
Et voilà, sur la sécurité, sur l'identité, sur l'immigration, il y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre certaines personnes chez les Républicains et Marine Le Pen. Par contre, sur l'économie, ça continue à coincer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que un jour, Marine Le Pen, si elle veut atteindre le pouvoir, et si le Front National veut atteindre le pouvoir, il faudra que sur la question européenne, sur l'euro, voilà, il y ait une espèce de contorsion qui l'amène à... c'est très difficile parce qu'en même temps, ce sera renier effectivement ce qui fait l'identité de ce parti.
Rappelez-vous les derniers jours, la dernière semaine de la campagne du premier tour, elle a essayé de rendre totalement flou et ambigu eu ses projets en matière
elle
de...
Elle dit d'ailleurs tout le temps, les Français seront consultés.
Et que s'est-il passé? Elle est arrivée seconde. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à adoucir son programme. Elle l'a juste rendu plus ambigu, plus flou.
Et d'ailleurs...
Dire qu'elle devrait revenir complètement là-dessus... Donc, changer de stratégie vis-à-vis de la mondialisation, c'est ignorer que c'est justement en s'adressant à cette France-là qu'elle a réussi à grimper.
Et d'ailleurs, juste une précision.
Ça va l'empêcher de finir avec la France.
On ne peut pas faire de tête à queue.
Il faut juste préciser qu'en 2012, l'euro dans le programme de Marine Le Pen, ça faisait une page. Là, en 2016, ça fait une ligne maintenant.
Ouais. C'est ça qui est assez étonnant. Je pense que Gilles a tout à fait raison et qu'il y a un marqueur, à mon avis, qui est beaucoup plus grave parce que l'euro, enfin, sa position à l'égard de l'Europe, l'a effectivement fait monter et l'a fait exploser. En revanche, elle, la question qu'elle s'est posée et dont elle m'a parlé, c'est le changement de parti et le changement de nom du Front National, c'est-à-dire tout mettre à la poubelle et tout reconstruire. Mmh. Et peut-être reconstruire en siphonnant au passage des militants qui, au fond, l'embarrassent un peu par moment pour aller en chercher d'autres. Donc c'est peut-être ça la question qu'elle va se poser demain.
Justement,
Thomas
Guénolé, quand on voit finalement différents ralliements autour d'Emmanuel Macron, on parlait Christian Estrosi. Christian Estrosi qui serait davantage.
Excusez-moi, juste pour la précision. Christian Estrosi qui fait quasiment des offres de service.
Oui.
Et Bruno Le Maire qui dit on peut imaginer un système à l'allemande où il n'y aurait pas de majorité après les législatives et on se réunirait à quelques-uns qui veulent faire avancer 4-5 propositions majeures, il y a vraiment un fossé,
juste une chose, alors voilà, donc on voit ces gens, ces personnes là et ce matin de l'autre côté il y a 160 élus et ministres PS, hein, parmi lesquels notamment Stéphane Le Foll par exemple ou Myriam El Khomri, qui appellent à voter pour, je cite, éviter le cauchemar Le Pen à notre pays. La question que je pense beaucoup de gens se posent, c'est: qu'est-ce qu'on fait de tous ces ralliements après ?
Alors, ce qui est très bien avec quand vous êtes président de la République et que donc vous venez de gagner avec une majorité assez large et qu'en plus vous partez avec une prime, un avantage pour les législatives, qui est que aux législatives on constate en règle générale, peut-être pas cette fois-ci, mais en règle générale, que tous les électorats se démobilisent, mais celui qui a voté pour le président qui a gagné se démobilise moins, et donc vous partez avec une prime et un avantage aux législatives. Donc vous venez d'entrer à l'Élysée et vous partez avec un avantage pour les législatives. Honnêtement, vous avez l'embarras du choix pour vos ralliements et vous prenez ce que vous voulez.
D'accord, donc il choisira d'après vous, en fait, c'est ça.
Il y a quand même quelque chose qui peut être assez pratique. C'est le côté... totalement malléable à la fois à gauche, à droite d'Emmanuel Macron. Il peut se faire une carte électorale
à la carte.
Des gens, disons plutôt de gauche ou de centre-gauche, dans des régions plutôt historiquement à gauche.
Absolument.
Et aller chercher plutôt des centristes et des gens de centre-droit à droite. Donc il peut panacher comme ça et trouver le bon candidat avec la bonne orientation selon les circonscriptions.
On va y revenir dans un instant également, et on va parler aussi des primaires, puisque plus personne maintenant n'est content des primaires, alors qu'avant c'était ce qu'il y avait de mieux. L'info à 20h50, Pierre-Yves Bonneau.
Emmanuel Macron, invité de nos confrères de France 2 ce soir, le candidat En Marche arrivé en tête au premier tour, se dit triste pour les électeurs de Mélenchon, qui valent selon lui beaucoup mieux, référence au silence du candidat de la France Insoumise, qui n'a pas donné à ce stade de consigne de vote pour le second tour. Emmanuel Macron rappelle que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas hésité il y a 15 ans à appeler à faire rempart au FN. Le président Hollande commente à nouveau ce soir les résultats du premier tour. Rien n'est fait, l'enjeu c'est que le Front National soit le plus faible possible, dit-il. Le chef de l'État appelle les Français à la mobilisation pour le second tour. Ce n'est pas rien que l'extrême droite soit au deuxième tour d'une élection présidentielle, ajoute François Hollande. En marge d'un déplacement à Laval, dès hier, le chef de l'État appelait à voter Emmanuel Macron au second tour. Cette année encore, les syndicats ne défileront pas ensemble le 1er mai. La CGT et la CFDT, les deux principaux syndicats du pays, ne sont pas d'accord sur le mot d'ordre de la manifestation. Les organisations syndicales n'ont pas manifesté toutes ensemble un 1er mai depuis 2012, année de la précédente élection présidentielle. Bonne nouvelle pour le secteur de la musique. Les ventes mondiales connaissent une deuxième année consécutive de croissance soutenue en 2016, plus 6%. C'est la musique en streaming qui porte désormais le secteur, plus de 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il nous reste peu de temps pour parler d'une passion qui va peut-être passer, hein, justement, en envoyant au second tour un start-upper de la politique et la présidente d'un parti prenant la préférence nationale. Les institutions sont-elles en train de craquer? On la repeint, on la revernit, on la rafistole, on lui fait du bouche à bouche, mais on sent que quelque chose ne va plus. Pourtant, les partis politiques semblaient avoir trouvé la parade pour rajeunir, une sorte de botox démocratique. On est âgé, mais c'est une vue de l'esprit. Portant le nom de primaire, la droite s'y est mise, la gauche sous l'appellation la Belle Alliance Populaire, deux candidats en sont sortis. Et au final, deux échecs. Et les organisateurs de droite et de gauche semblent se dire aujourd'hui, on s'est fait avoir quelque part, mais où? Je ne sais pas. En tout cas, c'est plus du tout la tasse de thé de Brice Hortefeux.
Comment persévérer dans un système qui aboutit à ce que les deux candidats qui se sont pliés à l'exercice de la primaire soient éliminés dès le premier tour et que les deux candidats qui s'en sont totalement exonérés, soit aujourd'hui les gagnants, je vous le dis, première et dernière.
Voilà, donc ça c'est Brice Hortefeux ce matin sur Europe 1. Gaël Tchakalov, alors on le sait, Brice Hortefeux est un proche de Nicolas Sarkozy qui lui-même n'en voulait pas, mais est-ce que finalement les défaites de François Fillon comme de Benoît Hamon, c'est à cause des primaires?
C'est à cause des primaires. En tout cas, est-ce on que... voit bien qu'il y a une déconnexion. Faut pas être devin pour voir qu'il y a une déconnexion entre l'appareil militant et puis la réalité de ce que veulent les Français. Parce que, comme le sait Judith et tous ici, et je pense une partie des Français, le parti politique radicalise, extrémise le discours. Dès lors, il fait sortir des candidats qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que veulent l'ensemble des Français. En d'autres termes, les primaires, c'est un peu un suffrage censitaire contre le suffrage universel. Donc je pense qu'effectivement là il pourrait y avoir une signature de l'arrêt de mort des primaires. En revanche, moi je trouve que les primaires sont une perversion qui n'est pas forcément inutile, parce que s'il n'y avait pas eu les primaires, je vous pose une question, qui aurions-nous eu comme candidat au premier tour? Sans doute, on aurait eu Alain Juppé contre François Hollande. Alors, bien
Nicolas
sûr,
Sarkozy, quand c'est
entre autres, peut-être, et Nicolas Sarkozy, l'arrivée de Marine Le Pen est calamiteuse. Elle dit quelque chose sur l'état de la France, de la même manière que l'arrivée d'Emmanuel Macron dit quelque chose sur l'état de la France. Donc, je me dis que cette perversion peut-être a des effets positifs.
Et pourtant, Christophe Alix, j'en parlais à l'instant, par exemple, François Fillon, là, on entend Brice Hortefeux qui critique. Il y a quand même 4 millions de personnes qui se sont déplacées pour voter. C'est quand même, c'est pas rien, 4 millions de personnes.
Oui, enfin bon, il y a d'autres pays qui ont le système des primaires. Nous, on est dans un système présidentiel en France, donc avec un régime parlementaire.
Mais pour
avec
vous, est-ce que ça veut dire la défaite de Benoît Hamon, de François Fillon, ça remet en cause forcément l'exercice?
Non, pas forcément. Voilà, il y a plein de, y a aux États-Unis, il y a des primaires tous les 4 ans. C'est vrai que ça a fait sortir des Trump, mais voilà. Enfin, ça a aussi fait sortir des Barack Obama, des Clinton,
Kennedy
et autres. Non, je pense que maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien qui a un petit peu réalisé ceux qui ont réalisé des beaux scores au premier tour, Mélenchon et Macron, sont sur des mouvements politiques un petit peu d'un nouveau genre, des partis politiques,
qui sont des
mouvements, et on voit mal effectivement. Le principe d'une primaire cohabiter avec ce genre de mouvement.
Moi, je trouve que le primaire, c'est la primaire, c'est le symptôme de la maladie, c'est pas la cause qui est malade. Le parti politique traditionnel, les Républicains, dernier avatar de la droite qui se dit gaulliste, ou que ce soit le PS qui est vraiment réduit à sa portion congrue, ces partis ne sont pas représentatifs de la population, comptent très peu de militants, n'ont plus aucune vie intellectuelle.
On dit souvent c'est des écuries présidentielles.
On arrivait à s'engueuler sur des idées il y a encore 10 ans, la maladie, elle est là. Le parti politique qui est fait dans notre constitution pour permettre l'expression des opinions ne joue plus du tout son rôle. La primaire, ce n'est qu'une conséquence. Et on pourrait remonter encore en amont en disant que notre système pêche, c'est l'élection du président. Alors, au suffrage
universel.
Ça, on en
reparlera une autre fois, Judith Vintraub, pas de problème. Thomas Guénolé, rapidement, parce qu'on n'a plus trop de temps, je suis désolé. Voilà, juste sur les primaires, s'il vous plaît.
Il y a un gros sur les primaires, les apparatchiks veulent reverrouiller. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon outil, c'est un moyen civilisé de départager les aspirants candidats. Ça provoque énormément de débats d'idées. C'est plus légitime que le vote des adhérents, puisque c'est le vote de sympathisants qui sont volontaires pour venir. Ouais. Mais il faut faire l'union après, ni Fillon ni Hamon n'ont fait ce travail d'union derrière. Ils sont restés sur leur programme en disant « j'ai gagné, allez vous faire voir ». pour moi, c'est pas les partis traditionnels qui sont en crise, pardon, mais l'électorat de droite, ça a donné plutôt un score très solide, alors que François Fillon s'écroulait sous les affaires. Il a quand même fait le score de Chirac en 2002.
Oui, exactement.
Même mieux. Donc, pardon, mais c'est le PS qui s'écroule, c'est pas les partis traditionnels.
Ça doit se terminer. Merci en tout cas d'avoir synthétisé. En tout cas,
j'ai essayé ce mot. Voilà.
Merci Thomas Guénolé d'être passé ce soir aux Affaires de France Info. Merci Gaël Tchakalov. Je rappelle votre livre Divine Comédie, c'est publié chez Flammarion. Christophe Alix, demain, Libération, la une.
Hey Manu, tu redescends ?
Voilà, très bien, voilà. Exactement, voilà un hommage aux inconnus. Et la une du Figaro, Julie Vintraube.
Nous, on est moins familiers, on explique comment Macron cherche des soutiens à droite.
Et voilà, exactement, allez, à trouver en tout cas en kiosque.